Cette émission est une rediffusion. C'est parti pour une escapade d'une heure à la rencontre de Nantaises et Nantais venus d'ailleurs. Casser les stéréotypes, voyager, éduquer et mettre en avant des parcours singuliers, c'est ce que vous propose notre joyeuse petite bande. Installez-vous bien, Nantaises et Nantais d'ailleurs, c'est maintenant sur Prune 92 FM.
Très chaleureux bonjour à vous, auditeurs et auditrices de Prune 92 FM. Les étudiants préparent actuellement les partiels, et cela pour beaucoup, à distance, confinement oblige. Mais l'enseignement et l'évaluation ne sont pas les seules activités que la Covid et le confinement nous obligent à mener à distance. Beaucoup d'étudiants et de lycéens se posent la question de leur orientation pour l'année universitaire qui arrive. Et si demain, l'orientation académique se faisait de manière dématérialisée? C'est justement de cela que notre Nantais d'ailleurs du mois vient nous parler. Bonjour Moumouni Sabikou.
Bonjour Lorraine.
Alors, vous êtes étudiant étranger togolais, arrivé à Nantes en 2013. Après un Master 2 en droit de l'Union européenne à l'Université de Nantes, en 2015, vous entamez une thèse de doctorat portant sur les politiques européennes et chinoises de coopération économique avec l'Afrique, une aide au développement, Alors, c'est une aventure académique que vous poursuivez parallèlement à une seconde, l'entrepreneuriat, car le 3 mars 2020, vous lancez votre start-up appelée YouMove, ce que vous appelez à l'époque le LinkedIn du lycéen et de l'étudiant. Et en octobre dernier, vous lancez l'application Milamit, le premier salon digital et permanent de l'orientation. Nous pouvons alors imaginer que pendant que le confinement présente bien des défis au monde universitaire et le monde économique, votre application pourrait devenir la solution nantaise, voire nationale, de l'orientation. En tout cas, j'ai hâte de discuter de tout cela avec vous. Le programme pendant cette heure d'émission est, comme toujours, 45 bonnes minutes d'échange avec Sabikou Moumouni, où nous aborderons son parcours d'étudiant entrepreneur étranger, le monde de l'orientation en France et son bébé. Et là, je fais allusion effectivement à son application Milamit. Et bien sûr, tout cela ponctué de musique choisie en partie par notre invité. Donc, posez-vous confortablement en ce dimanche après-midi. Les Nantaises et Nantais d'ailleurs, c'est tout de suite.
Des femmes et des hommes à la croisée de chemin, vous écoutez Nantaises et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
We'll be right back.
écouté Proper Education d'Eric Prydz et Pink Floyd, morceau tout indiqué car nous parlons bien éducation et orientation. D'ailleurs, Nantaises et Nantais d'ailleurs, vous aurez remarqué que je n'ai pas salué notre cher Patrick en ses débuts d'émission. En effet, à cause du confinement, il n'a pas pu nous prêter sa voix aujourd'hui, mais sachez tout de même que c'est lui qui assure la partie technique de cette émission, donc il est bien avec nous pour marquer ce dernier numéro de 2020. On va quand même faire honneur à Patrick Sabicou, si vous voulez bien, puisque nous allons commencer par son dada. C'est ce qu'il appelle la Nantitude, où l'on interroge nos invités sur leur moment fort à Nantes. Vous êtes prêts?
Oui. Oui.
D'accord. Alors Sabicou, quel est votre premier souvenir de Nantes?
Alors, mon premier souvenir de Nantes, il est un peu bizarre, mon premier souvenir de Nantes.
Bizarre. Puisque,
oui. Ok. Je dirais même déroutant.
Déroutant.
Déroutant, oui.
Dites-nous.
Je me vois débarquer à Nantes pour la première fois. C'était le 4 septembre 2013. Je débarque en pleine nuit. Je suis conduit chez moi par mon bailleur, celui par lequel j'ai trouvé mon logement étudiant. À l'époque, c'était en plein centre-ville de Nantes, dans le quartier René Bouillet. Le lendemain, je me réveille. Le lendemain, il fallait forcément que je trouve un téléphone pour appeler mes parents, leur dire que je suis bien arrivé, afin qu'ils arrêtent
de s'inquiéter,
puisque, enfin, je venais de quitter toute ma famille pour débarquer dans un pays, dans un environnement, dans un autre monde où ils savent très bien que je ne connais personne. Et forcément, la toute première des choses, c'est de leur assurer déjà que j'ai fait un bon voyage et que je suis bien arrivé à destination. Et du coup, je descends de mon immeuble, je prends la ligne 1 à Chantier Naval, j'atterris à Commerce, je cherche un téléphone à acheter. Je vois la toute première boutique Orange que je vois, je rentre dedans pour m'acheter un téléphone. Déjà, il y avait 4 agents commerciaux dans la boutique. Et pendant que j'étais en train de regarder les téléphones, il y a un qui était venu vers moi pour m'aider à choisir. Je l'ai dit tout de suite, j'ai vu un téléphone qui coûtait à peu près 200 euros. Donc je dis, je veux celui-là. Et il dit, vous êtes sûr? J'ai dit oui. On arrive au niveau de la caisse pour payer. On me dit, vous payez comment? Je dis, je paye cash. Et ils se sont regardés tous les trois. Et à un moment donné, ils me disent, OK. Est-ce que vous avez une pièce d'identité? Je sors mon passeport, puisque, bon, moi, je venais de débarquer.
Oui.
Et j'avais du cash sur moi, l'argent de poche pendant mes 3 premiers mois que mes parents m'avaient remis en arrivant. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir toutes les formalités pour ouvrir un compte bancaire, le temps de... Ouais. Et du coup, je mets ma main dans ma poche. Je sors, près de 4 000 et quelques euros en cash. Et je pense que ça les a déroutés. Tout de suite, je vois l'un d'entre eux. Je n'ai pas remarqué, moi, je n'ai pas fait attention. Reculer un peu, aller derrière le comptoir, en train de téléphoner. Je n'ai pas fait attention. Pendant que les deux autres essayaient de me faire perdre... un tout petit peu de temps. Et du coup, à peine 15 minutes, je vois la police qui débarque.
Non!
Oui, il y a 2 flics qui débarquent. Et puis, tout de suite, on me dit... on leur fait signe que c'est le... Monsieur, et il s'approche de moi, il me dit, monsieur, il paraît que vous avez une forte somme sur vous en cash, on voulait savoir, je leur ai remis mon passeport. Est-ce que, déjà, ils m'ont dit, déjà, vous avez une pièce d'identité, je leur tends mon passeport. Ils ouvrent le passeport, les deux agents remarquent que je viens d'arriver, puisqu'il y avait le tampon de la douane et française qui datait de la veille de mon arrivée. J'ai dit, je suis étudiant étranger, je viens d'arriver et je suis là pour les études. Et je viens juste d'arriver hier soir et que, je n'ai même pas eu le temps de faire d'aller ouvrir un compte bancaire d'abord et qu'il fallait obligatoirement que je puisse trouver un téléphone, appeler mes parents pour leur dire que, pour leur assurer que je suis bien arrivé. Et je leur demandais, est-ce que j'ai fait quelque chose? Et du coup, ils ont dit non, normalement, c'est pas, mais c'est interdit de tenir autant d'argent sur vous. Est-ce que... après, j'ai vu que les deux agents ont essayé d'engueuler les commerciaux qui les ont appelés, parce que quand même, ils ont eu ce n'est qu'après que j'ai réalisé que pour eux, dans leur tête,
Oui, c'est que ça fait suspect.
Exact, c'est suspect que je tienne. Mais quand même, ils ont eu je leur ai tendu mon passeport. Ils ont bien regardé. Ils ont vu que j'avais un visa étudiant et que je venais d'arriver.
Après, en l'air de fin, j'imagine que c'est rare qu'ils ont l'occasion de voir autant d'argent d'un coup avec un particulier.
C'est ce que je me suis dit, mais je dois dire que sur le coup, comme moi j'ai vu les deux agents débarquer comme ça, bon, moi un Africain...
Pour un deuxième jour en France, c'est pas l'idéal.
Moi un Africain qui vient de débarquer comme ça, et ma toute première journée, je rentre, ma toute première occasion, deux flics qui débarquent comme ça, qui me prennent dans... C'était pas du tout. Enfin, dans ma tête, j'avais encore les images de quand je suis encore chez moi, quand on voit à la télé les forces de l'ordre arrêter les clandestins. Je me suis dit, pourquoi? C'était ça. Mais encore aujourd'hui, quand je m'en souviens, ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire. Et je pense que c'était une façon pour moi de bien démarrer mon arrivée à Nantes.
Ça fait une bonne histoire à raconter. Justement, ce démarrage à Nantes, vous l'avez vécu comment? Est-ce que vous avez eu du mal à vous faire une place à Nantes, à rencontrer du monde? Est-ce que Nantes est accueillant?
Nantes, je pense que mes tout premiers jours à Nantes, je dois même dire, mes toutes premières semaines à Nantes ont été un tout petit peu compliquées. Mais Nantes n'a rien à voir avec ça. Je pense que c'est dû à un choc culturel, au fait que je venais d'un monde qui est complètement différent de Nantes. Puisque chez moi, au Togo ou en Afrique de façon générale, bon, déjà, il y a la différence climatique où il fait chaud en Afrique. Et donc, forcément, moi et nous vivons dehors, nous, à longueur de journée. Et puis, ce qui faisait que tout le monde se connaissait dans les quartiers. Et pour ne pas dire dans les maisons, dans les familles, tout le monde se connaissait dans les quartiers. Et je débarque à Nantes, où il fait un tout petit peu froid. Un tout petit peu froid. Bon, comparé à d'autres villes ou à d'autres pays que j'ai eu la chance de visiter, et c'est pas moi, par exemple, Paris ou même Montréal. Ça, en termes de climat, Nantes, on va dire que bon, Nantes, c'est pas le pire, quoi. Et j'arrive à Nantes où le climat est un tout petit peu froid et où tout le monde est obligé de vivre à l'intérieur, et que moi-même dans l'immeuble où, enfin, j'avais mon appartement, mes voisins, je ne les voyais pas. Et du coup, mes journées s'arrêtaient. Enfin, mes journées, c'est juste mon appartement. Le train pour aller à la fac, je termine mes cours, je rentre chez moi. Je vivais comme de la prison. Moi, c'était ça qui avait fait que les tout premiers jours, les toutes premières semaines, ça m'avait un tout petit peu dérouté, puisque j'avais pratiquement pas de lien social déjà avec qui passait du temps et tout.
En fait, vous viviez déjà le confinement avant le confinement.
Exactement. C'est tout à fait ça.
D'accord. Donc, c'était difficile, mais à quel moment éventuellement est-ce que vous pourriez dire que vous avez trouvé votre place à vous, votre environnement de prédilection, on va dire, à Nantes?
Je pense qu'au terme du premier semestre, de mon premier semestre, j'avais déjà commencé par... j'ai eu le temps de me faire des amis dans ma promo. Je venais d'intégrer un master 1, une première année de master études européennes et internationales, dans la mention droit européen et international. Et du coup, l'autre chance que j'avais eue, c'est que j'avais rencontré un compatriote togolais avec lequel on s'était croisé. On était de la même promo, de la même promotion de licence à l'université de Lomé, mais on ne se connaissait jamais. Bon, et cela donne une idée du nombre d'étudiants qu'on pouvait avoir dans une même promo dans les universités africaines. Mais le soir de notre départ pour Nantes, on s'était croisé à l'aéroport au moment où on faisait tous les deux des formalités. On s'était même aidé à faire mais on s'était perdu de vue. Et quand on avait fait escale au Maroc, lui, il avait pris un vol sur Paris avant de rejoindre Nantes. Moi, j'avais pris un vol de Lomé avec l'escale au Maroc et de Maroc direct sur Nantes. Donc, il faut dire qu'on était arrivés tous les deux, enfin, quelques jours avant la rentrée. Et du coup, même après la rentrée, on n'a pas eu le temps les cours n'avaient pas véritablement commencé. Mais donc, ce qui fait qu'on n'avait pas eu véritablement le temps de se retrouver. C'est juste,
et je pense, au bout de deux semaines. Et vous n'aviez pas encore acheté ce fameux téléphone.
Exact. Même si je l'achetais, lui, il n'avait pas encore de numéro. même s'il avait déjà un numéro, ben, il ne savait pas celui que moi j'ai eu. Du coup, je pense que j'ai dû passer les 2-3 premières semaines avant qu'on se recroise encore à la fac. Et à partir de là, bon, ben, j'ai trouvé, lui aussi, il a vu en moi
une accroche peut-être.
Une accroche, ce que j'ai, et réciproquement. Et du coup, on était tous les deux inséparables jusqu'à ce que, au terme du premier mois, le CROUS nous attribue un logement. Tous les deux, une colocation. On devait habiter en colocation, lui et moi. Donc là, on était comme la famille l'un de l'autre. On était deux. Et du coup, le poids de la sollicitude s'est un tout petit peu amoindri. Mais je pense que les mois qui ont suivi, très rapidement, on s'est tous les deux fait des amis. Déjà, d'abord avec d'autres étudiants africains de la même promo, mais ensuite avec d'autres étudiants français. Il faut dire que notre master était un master qui a créé beaucoup d'étudiants étrangers, dont pas mal d'étudiants Erasmus. Donc, on s'était très rapidement fait des amis. Et je pense que déjà à partir de la fin du premier semestre, j'avais déjà Nantes. Je pouvais déjà commencer par dire que je suis chez moi à Nantes.
Après le premier semestre?
Oui.
Mais je ne sais même plus si ça vaut la peine que je vous pose la question. Est-ce que Nantes est accueillant aux étudiants étrangers à ce moment-là? Est-ce que vous diriez oui ou pas?
Oui, je pense que Nantes est accueillant pour les étudiants étrangers. En tout cas, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Il y a beaucoup de choses que Nantes fait. Enfin, quand moi je prends l'exemple d'autres étudiants togolais que je connaissais qui sont allés dans d'autres villes, je pense que Nantes est très accueillant. Et je pense qu'en tout cas, moi, dans mon cas, je pense que Nantes m'a bien accueilli. La preuve, c'est que je suis resté. Quand bien même à la fin de mon Master 1, j'ai eu des Master 2 dans d'autres villes. Des Master 2 qui étaient beaucoup... des formations qui étaient peut-être beaucoup plus cotées que celles dans lesquelles je suis resté à Nantes. Mais j'ai préféré rester à Nantes. Et depuis, Nantes et moi, on ne s'est plus quittés.
Donc, c'est une grande histoire d'amour avec Nantes?
Ben, Nantes, je pense que c'est une rencontre qui était censée... Nantes et moi, c'est une rencontre qui était censée se dérouler. Et on dit souvent, si Mahomet ne va pas à la montagne ira à Mahomet. Je pense que Nantes et moi, c'est comme ça.
Ben, je ne sais pas s'il y a meilleur mot pour terminer cette partie Nantitude. J'espère que Patrick sera content parce que bon, normalement, c'est Patrick qui s'occupe de cette partie-là avec toute la légèreté avec laquelle on le connaît. Sabikou, en préparant l'émission, je vous ai demandé, à ce moment-là, de votre arrivée à Nantes, dans vos moments de déprime en général, quelle est la chanson qui vous remonte le moral?
Alors, la chanson qui me remontait le moral, c'était une chanson de Corneille, « Je suis seul au monde ».
Je suis seul au monde. Mmh.
D'où je viens? Très loin. Où je vais? Personne ne sait. En attendant, je vous dis où je suis.
On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantaient, les requiem que je me chante. Je joue dur chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, monte jamais tes faiblesses et dans le pire. Reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle âme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le faire, je suis seul au monde. Je me sens seul au monde.
C'était Seul au monde de Corneille, morceau choisi par notre invité Sabikou Moumouni, CEO et fondateur de la start-up YouMove, l'entreprise ayant lancé en octobre dernier le premier salon digital et permanent de l'orientation. Sabikou, lançons-nous tout de suite dans le vif du sujet. Comment vous est venue l'idée de ce salon digital et permanent de l'orientation? Je veux dire, vous êtes doctorant en histoire des relations internationales et sciences politiques. Comment arrive-t-on à l'entrepreneuriat dans l'orientation?
Alors, je dois dire que l'aventure entrepreneuriale et moi, c'est, je suis arrivé en entrepreneuriat par effraction, si on peut le dire comme ça, ou pour faire simple, accidentellement. Mm-hmm. Je pense que ça ne m'a jamais traversé à l'esprit d'entreprendre, mais je dois quand même dire que j'avais commencé par le biais de mon premier boulot d'étudiant en France. C'est-à-dire que déjà dès l'entame de ma thèse de doctorat, j'avais eu un contrat d'assistant d'éducation au lycée Nelson Mandela et où j'ai été tout de suite intégré dans l'équipe pédagogique du BTS Commerce International. Et du coup, j'ai eu pas beaucoup de responsabilités qui vont au-delà même de mon statut d'assistant d'éducation puisque je m'occupais du recrutement de la future promo. C'est moi qui faisais l'étude des dossiers de candidature à l'intégration de notre BTS. Donc, sur l'ancienne plateforme APB, qui est l'équivalent aujourd'hui de Parcoursup. Et du coup, je voyais quelles sont les attentes que l'établissement avait par rapport aux élèves qui candidataient pour intégrer notre BTS. Et je voyais également le nombre de candidatures que nous recevons. Je précise que le BTS avait une capacité d'accueil de 35 étudiants et nous recevons chaque année presque 2000 à 3000 candidatures.
2000?
Oui, pour juste ce BTS Commerce International.
Pour ces 30 places?
Oui, pour ces 35 places. Initialement, c'était 30 places, mais compte tenu de l'affluence des candidatures, on a dû augmenter la capacité, créer 3 places et 5 places supplémentaires pour faire monter l'effectif à 35 places. Et ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui avaient la chance, parce que moi je les appelle les chanceux, parce que sur 2000 candidats, on fait partie des 30 ou des 35 retenus. Ces 30 chanceux ou ces 35 que je considérais comme les chanceux qui intégraient la formation, au bout de 2 semaines, 1 mois, après la rentrée, on perdait au moins une bonne dizaine, voire même la moitié.
En cours d'année?
Ouais, ce n'est même pas en cours d'année, au cours du premier mois. C'est-à-dire que si la rentrée, c'est le 1er septembre, au bout de 2 semaines, 3 semaines, on perdait une bonne dizaine qui démissionnaient. Et on avait institué à l'époque le système d'entretien individuel qu'au bout de 2 semaines ou du premier mois, l'équipe pédagogique du BTS, on était 4 profs à faire des entretiens individuels avec chacun de nos étudiants de la promo pour leur demander alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé, comment est-ce qu'ils ont trouvé la formation au bout de quelques semaines après la rentrée, s'ils ont des problèmes particuliers ou s'ils ont des observations, des difficultés particulières pour prévenir nous à ces démissions.
Et c'est ça qui vous a inspiré pour créer l'application?
Oui, je pense que l'idée était partie de là, mais c'est là que j'ai commencé par identifier le problème. Puisque chaque fois, ce qui nous revenait, c'est que l'idée que je me faisais du BTS, ou bien l'idée que je me suis fait de la formation quand j'ai participé aux journées portes ouvertes ou quand je suis allé au salon ou quand j'ai consulté le site, quand je suis venu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la réalité que je vis. Mmh. C'est pas la réalité que je vis. Mais je pense que, et à cela s'ajoute le fait que, une fois, je revenais de Lyon, j'étais allé participer à une conférence à Lyon, et je rentrais, j'étais dans un covoiturage avec une maman et sa fille. Donc c'était eux qui conduisaient, moi j'étais leur passager. Et enfin, tout au long du trajet, on discutait et tout, et puis ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Je leur ai dit que j'étais doctorant, je venais du Togo. Et moi, si je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Lyon. Et c'est là que la maman me disait que bon, ils étaient allés à Lyon ce week-end-là juste parce que sa fille voulait intégrer une école de commerce à Lyon. Mm-hmm. Eux, ils sont en danger. Et ils se sont déplacés ce week-end-là. C'était ce samedi-là qu'avaient lieu les journées portes ouvertes de l'école de commerce que sa fille voulait intégrer. Et donc, j'ai trouvé ça bizarre qu'elle puisse faire ce déplacement. La maman et la fille puissent faire le déplacement d'Angers jusqu'à Lyon, juste pour pouvoir permettre à sa fille de rencontrer les enseignants, échanger avec eux, que sa fille puisse leur poser les questions, que sa fille puisse s'immerger dans l'établissement, dans le cadre dans lequel elle sera amenée à étudier. Mais surtout, ce qui était important pour la fille, c'est de pouvoir échanger avec les étudiants qui, de la, l'actuelle promo, mm-hmm. de la formation qui l'intéressait.
Avoir un contact direct avec exactement, ceux qui vivent la promotion.
Exactement, ceux qui vivent, exactement.
D'accord.
Et la maman m'a dit, bon, ce n'est pas encore terminé, le son caverne n'était pas encore terminé, puisqu'il y a encore deux autres établissements qui, et pour lesquels ils vont faire la même chose les week-ends à venir, un à Bordeaux et un troisième à Paris. Et donc, je me suis dit, si une, pour un seul enfant, la maman doit bloquer 3-4 week-ends pour faire d'aussi longs trajets pour rencontrer les enseignants, mais rencontrer le, et pour permettre à sa fille d'avoir une idée précise de ce qu'elle veut faire, bah pourquoi ne pas profiter de, des avantages de la technologie mm-hmm. pour simplifier, pour rendre un tout petit peu... C'est là que l'idée de, d'une application qui pourrait permettre à tous les jeunes qui souhaitent s'informer sur les formations. Vous n'êtes pas sans savoir que... de nombreux jeunes aujourd'hui s'orientent de façon hasardeuse, puisqu'on choisit de façon hasardeuse la formation, soi-disant parce qu'on connaît peut-être qu'on veut devenir, on a une perspective professionnelle, je veux, mon rêve c'est de devenir avocat, c'est de devenir médecin. Bon, tout de suite, pour devenir avocat, il faut forcément faire des études de droit. On intègre la fac de droit sans forcément savoir concrètement c'est quoi, quels sont les enjeux, quelles sont les exigences, c'est quoi la réalité des études de droit. Et donc, on s'oriente comme ça les yeux fermés. Et quand on arrive, la rentrée commence, on est complètement désorienté, on est complètement perdu. Et il y a eu, quand je me suis mis à travailler sur le projet, j'ai commencé par réfléchir à l'idée, il y a des études, des chiffres qui m'ont fait peur. Et il y a, en 2018, une étude du ministère de l'Éducation nationale qui a publié les chiffres qui montrait que 60% des jeunes bacheliers qui entrent en première année échouent dès la première année d'études à l'université. 60%. Donc, c'est un chiffre monstre. Et donc, c'est de là que l'idée de l'application.
Cette application, ouais. Votre application, justement, a vocation à participer, en tout cas, à éliminer un petit peu ce problème-là. Parlons-en concrètement. Comment fonctionne l'application? Et nous disons application, mais si je ne m'abuse, il y a aussi une plateforme, tout simplement, un site internet également qui existe.
Oui. Enfin, Milamite, c'est à la fois un site internet, mais également une application mobile. Le site internet accessible... et via le lien www.milamite.com et ensuite une application mobile accessible disponible dans les stores de Google et Android et puis et sur l'App Store en version iOS. Et le site, il est à la fois utilisable par les établissements scolaires, mais également les entreprises, mais aussi les élèves et les étudiants. Mais l'application mobile, il est beaucoup plus utilisé. Il est utilisé exclusivement par les élèves et les étudiants. D'accord. L'application mobile.
Donc, les établissements ont accès au site. Et si je comprends bien, ces établissements mettent leur formation sur cette plateforme. En tout cas, les informations concernant leur formation sur cette plateforme-là. Et les étudiants peuvent aller consulter les informations concernant la formation. Et à quel moment les étudiants sont en lien directement entre eux, c'est-à-dire enfin lycéens ou étudiants? À quel moment moi je suis lycéenne, je dis j'aimerais bien connaître des informations sur une formation à l'université de Nantes. Comment je rentre en contact avec un étudiant actuellement à l'université de Nantes?
Alors faisons simple, essayez de visualiser ce que c'est qu'un salon de l'orientation. Dans un salon de l'orientation, on rencontre qui? On rencontre deux acteurs principaux. On a les établissements scolaires venus promouvoir, faire découvrir leur formation et leur établissement au public élève et étudiant qui souhaitent intégrer une formation. Mais également, on a les élèves et les étudiants qui viennent justement découvrir leur formation, s'informer, se renseigner sur les formations qui les intéressent. Donc, c'est comme ça que c'est dans cet ordre d'idée que l'application a été conçue. Donc, sur le site... Le système fonctionne comme un réseau social. C'est un réseau social tout simplement parce que chaque école chaque établissement scolaire crée son compte, tout comme sur n'importe quelle plateforme, LinkedIn ou Facebook. Oui. Chaque établissement crée son compte.
Oui.
Ensuite, renseigne tout ce qui concerne l'établissement. Nous, on appelle dans le jargon, chaque établissement crée son instance, puisque dans les salons classiques que nous connaissons, les établissements réservent ce qu'on appelle des stands, tiennent des stands. Et nous, vu que c'est digital, les établissements tiennent, chaque établissement dispose de ce qu'on appelle un e-stand qui lui permet de se présenter, déjà présenter l'établissement. Ensuite, présenter toute l'offre de formation de l'établissement. Et donc, de l'autre côté, quand l'élève et l'étudiant viennent, ou toute personne qui souhaite faire une formation ou s'informer sur une formation peut également créer son compte, comme sur n'importe quel réseau social. Et à partir du moment où cet élève ou cet étudiant a créé son compte, il est intéressé par, il a deux possibilités. Soit il sait la formation qu'il veut faire, il a déjà identifié deux ou trois établissements qui proposent cette formation et qu'il a envie d'être mis en relation. C'est comme l'exemple de la maman et de sa fille qui étaient allées à Lyon. Donc sa fille avait déjà identifié l'établissement dans lequel elle veut faire sa formation. Donc sa fille a juste à taper le nom de l'établissement, et si cet établissement est référencé sur la plateforme, cet établissement apparaîtra, et donc la fille pourra aller sur la page de cet établissement, découvrir toutes les formations, l'offre de formation de cet établissement, choisir la formation qui l'intéresse, et à partir de là, depuis la fiche de la formation qui intéresse l'élève ou l'étudiante, il a deux boutons, un bouton qui lui permet de déclencher une interaction avec le responsable des admissions de cette formation, ou si vous voulez, le responsable pédagogique de cet établissement. Elle peut lui poser, interagir avec lui de façon via un système de chat intégré à la plateforme. Donc, elle peut discuter, poser toutes ses questions au responsable des admissions de l'établissement. Mais également, il y a un deuxième bouton qui lui permet d'accéder à la liste de tous les étudiants de l'actuelle promo de cette formation au sein de cet établissement. Elle va pouvoir consulter un à un les profils de ses étudiants, puisque chaque étudiant qui crée son compte se présente, renseigne tout ce qui concerne son parcours, les langues qu'elle parle, ses hobbies et tout ça. Et donc, moi qui voudrais entrer en relation avec un étudiant, un autre étudiant, je parcours son profil. Si je trouve que j'ai plus d'affinité ou enfin sa présentation, mais selon mon feeling, je lui envoie une demande de parrainage. Lui, il reçoit la demande de parrainage tout de suite. Il a la liberté d'accepter ou de refuser. S'il accepte, il devient mon parrain. Et à tout moment, et tous les deux, je vais pouvoir lui poser toutes les questions. Ce qui me permettra, moi, l'étudiant qui veut m'informer sur cette formation, à la fois d'avoir les informations objectives et officielles de l'établissement, par le biais de mon interaction avec le responsable des administrations pédagogiques, mais également avoir des témoignages d'un autre étudiant, des informations beaucoup plus désintéressées de quelqu'un comme moi qui expérimente déjà, qui vit déjà ce que j'aurai à expérimenter l'année prochaine si j'intègre cette formation.
Je comprends tout à fait ce que vous dites. Si vous permettez, je vais vous poser une question suivante. On dit souvent que les administrations ne sont pas toujours ouvertes aux innovations, ou du moins à ce qui pourrait perturber la manière dont les choses se sont toujours faites. Votre entreprise touche tout de même à quelque chose d'essentiel, l'orientation et l'éducation des jeunes Français, mais pas que. Est-ce que votre application a connu un accueil positif de la part des universités, des administrations, des rectorats, etc.?
Alors, bon, c'est vrai que le système éducatif français, pas que, est assez difficile à pénétrer. Mais ce qu'il y a, c'est que le secteur de l'orientation, c'est une problématique qui touche tout le monde, les parents en premier, au-delà des élèves et des étudiants. Et c'est vrai que du côté des administrations, bon, nous, dès le départ, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, quand j'ai voulu approfondir, j'ai écrit à qui de droit, vu que bon, moi-même j'avais déjà un pied dans ce qu'on appelle le système éducatif français, et à travers mon poste au lycée Nelson Mandela, j'ai pu être mis en relation avec des gens. Très rapidement, j'ai eu des contacts auprès du ministère où on m'a aidé, en tout cas mon interlocuteur a prêté une oreille attentive par rapport à mes requêtes et à mes demandes, ce qui m'a permis on a mis à ma disposition un fichier que j'aurais pu dépenser 6 000 euros à acheter, un fichier qui répertorie tous les établissements publics comme privés d'enseignement référencés en France, qui existent en France, environ 84 000 établissements scolaires du cours primaire jusqu'au jusqu'à l'université. Donc, je peux dire que du côté des autorités publiques, oui, enfin...
L'accueil était plutôt positif.
L'accueil est plutôt positif. Mais il faut dire également que du côté des établissements eux-mêmes, enfin, ça dépend. L'intérêt est variable en fonction du statut de l'établissement. Quand on est un établissement public, on n'a pas le même intérêt ou le même niveau d'intérêt qu'un établissement privé. Et ça se comprend parce que les établissements publics, enfin, ils coulent déjà sur des demandes d'admission des étudiants, ce qui pousse même aujourd'hui à un système de sélection à l'entrée. Et par contre, du côté des établissements privés, là où qui fonctionnent comme des entreprises, où c'est donc une logique de rentabilité, donc on cherche à attirer de nouveaux élèves ou d'étudiants. Et là, la concurrence est féroce parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce secteur. Et il faut dire aussi que même pour les établissements publics, il y a un intérêt parce que même s'ils ne sont pas... Enfin, ils ne trouvent aucun intérêt à attirer de nouveaux élèves. Il y a depuis l'éclosion du numérique, il y a ce qu'on appelle un langage ou bien qui s'est développé dans le système éducatif, c'est que la visibilité, chaque établissement même public veut améliorer son image, veut faire accroître sa réputation. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous allez trouver des universités, toutes les universités publiques ou les facultés publiques rattachés à des universités publiques, avoir leur compte sur des réseaux sociaux. Vous allez les voir et réserver des stands, tenir des stands et en payant et de fortes sommes pour participer à des salons comme n'importe quel établissement privé.
Oui.
Donc, nous, à notre niveau, je pense que ce qui fait l'intérêt des établissements, puisque c'est sur eux que repose notre modèle économique, c'est eux nos principaux clients, puisque c'est eux qui payent, c'est eux qui réservent les stands. Ce qui fait leur intérêt, c'est de savoir s'il y a suffisamment, s'il y a des élèves et des étudiants sur notre plateforme.
Justement, en parlant de votre plateforme, j'ai une petite question, une pointe de curiosité. Milamite, est-ce que c'est un mot qui existe ou est-ce un terme que vous avez inventé spécialement pour ce salon digital ?
Milamite, déjà, ce n'est pas une sorte d'invention, puisque c'est un mélange. Je pense que c'est un clin d'œil que j'avais voulu faire à ma jeunesse et à mon pays d'origine, qui est le Togo. Moi, je me rappelle quand on était encore jeune. Enfin, je suis toujours jeune. Je me rappelle quand j'étais encore au lycée quand je faisais mes premiers pas à l'université de Lomé.
Ah, je croyais que c'était les premiers pas tout petit.
Quand je faisais mes premiers pas à l'université de Lomé, bon, tout jeune, on avait dans chaque milieu, il y a toujours, des tics, des éléments de langage qui permettent de... Voilà, et nous, Milamite, c'est un mélange entre l'évé, qui est la langue vernaculaire du parler, majoritairement parlé au Togo, mais plus précisément au sud du Togo, donc Lomé. Mais Mits, c'est l'anglais. Donc, Mila, c'est comme nous allons. Mila signifie nous allons. Et Mits, c'est anglais.
Rencontrer.
Donc, Mila Mits, c'est nous allons nous rencontrer, nous allons nous retrouver. Mais nous, à l'époque, dans notre jargon jeune, cela signifie on se capte. Et donc, comme l'application où la plateforme permet à la fois aux élèves et aux étudiants de se rencontrer pour s'échanger des expériences, des témoignages, des bons plans, des conseils, astuces pour s'accompagner dans leur orientation et qu'elle permet également à la fois aux établissements scolaires de rencontrer leurs futurs élèves ou étudiants, mais également aux entreprises qui postent leur offre de stage ou d'alternance de rencontrer leurs futurs alternants ou stagiaires, il m'a semblé et tout à fait normal, tout à fait adapté à la fois de concilier et cette utilité de la plateforme, mais aussi de rappeler un tout petit peu mes origines.
Eh ben, en parlant de vos origines, justement, en préparant l'émission, vous avez demandé une autre chanson que vous aimiez et vous nous avez parlé de la chanson de King Messan, Mifon, qui est également une salutation. Donc, on va faire une pause musicale et nous reprendrons juste après avec Sabiku Moumouni.
Avec plaisir.
Mi fono ma,
mi fono,
Sono cu de via de ma
o fonu ere
mi fona ma
mi fon
be mi fonu ere
mi fon
mi fona ma
mi fon
be mi fonda de
mi fonu ere
Sono con le viole ma
o fondo ere
da che mi fondo ma
mi fondo
da papà mo to e
o fondo
sono con le viole ma
o fondo ere
ah o mi fondo ma
mi fondo
beh mi fondo ere
mi fondo ere
mi fondo ma
mi fondo
beh mi fondo ere
mi fondo ere
ah o mi fondo ma
mi fondo
beh mi fondo ere
mi fondo ere
mi fondo ma
mi fondo
beh mi fondo ere
mi fondo ere
ah o mi fondo ma mi fonu ere
mi fonu ere
mi fona o mama
mi fon
be mi fon dagbe ya
mi fonu ere
la fonction le ma ou en comme.
Vous écoutez Nantaise et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
Et le morceau que vous venez d'entendre est Mi Fon de King Mensa et non pas Messan comme je disais précédemment, artiste togolais choisi par notre invité Sabiku Moumouni. Sabiku Moumouni, vous êtes doctorant et entrepreneur certes, mais vous êtes aussi étudiant étranger et non européen. Est-ce difficile d'entreprendre en tant qu'étranger en France ?
Déjà, disons tout simplement que entreprendre tout court est difficile, que ce soit pour un Français ou un Européen ou pour un étranger. Mais je dirais tout simplement que pour un étranger, c'est encore plus compliqué. Et pour un étranger qui a encore une casquette d'étudiant, c'est triplement plus compliqué. Puisque déjà, il faut pouvoir concilier à la fois ses études, mais également l'aventure entrepreneuriale. Et ça, c'est la toute première difficulté, mais elle est surmontable puisque c'est une question d'organisation. Et j'ai dû passer par là, mais je pense qu'au bout de quelques mois, on arrive à trouver sa vitesse de croisière, on arrive à mieux s'organiser et puis à avancer, à trouver ses priorités. Mais je pense là où c'est compliqué, le statut d'étudiant, entreprendre en étant étudiant, là où c'est compliqué pour un étranger, c'est au niveau des formalités de séjour. Quand on est étudiant en France, on a un titre de séjour qui est limité dans le temps, c'est-à-dire de 12 mois, renouvelable chaque année. Et déjà pour travailler, ne serait pas pour entreprendre, pour travailler en tant que salarié, on est limité en nombre d'heures de travail. Et pour entreprendre, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que c'est la recherche du financement. Puisque mon projet a eu le label French Tech, a été labellisé Entreprise Innovante par le ministère de l'Économie et des Finances pendant le confinement dernier.
Félicitations.
Merci. Donc, un projet avec un tel potentiel, les investissements de départ pour le concrétiser ne sont pas négligeables. Et ne serait-ce que rien que la plateforme, moi je me rappelle les tout premiers devis que j'ai reçus des agences de développement web ou mobile en France ici, les devis les moins chers tournaient autour de 20 000 euros juste pour une seule version de l'application, même pas la version web intégrée. Et pour un étudiant, vous conviendrez avec moi que c'est compliqué. Et là où la difficulté se trouve, c'est que forcément ce genre de projet, pour les financer, il faut passer par des investisseurs. Donc, quand je parle d'investisseurs, je parle des dispositifs publics et d'aide publique qui permettent de financer les projets, mais également les capitaux risques, c'est-à-dire les prêts bancaires. Et dans mon cas, dans le premier cas, quand on prend l'exemple des capitaux risques auprès des banques, pour un financement de, je sais pas moi, 100 000, 200 000 euros pour financer un projet, une banque donc qui est un financement qui est étalé dans le temps, 5-10 ans. Enfin,
un
titre de séjour d'une année ne rassure pas une banque, donc c'est impossible. Et du coup, on est obligé de se rabattre, de se tourner vers les dispositifs d'aide mis en place par les régions, les
autorités. Et ça, c'est la seconde option dont vous parlez.
Voilà, la seconde option. Et celle, de ce que je sache, dans le monde des startups, c'est l'option la plus simple, c'est la plus facile. Mais sauf que quand ce qui est un peu dommage, ce que je trouve dommage, c'est un tout petit peu regrettable pour cette seconde option, c'est que ça fonctionne beaucoup par réseau. Et pour un étranger, de sur le coin, un étudiant faisant partie d'une minorité, c'est un tout petit peu. Quand on n'a pas ce réseau-là, c'est difficile. Quand bien même on porte un projet assez porteur, quand bien même on porte un projet assez innovant et qui a du potentiel.
Et vous faites référence à votre statut d'étudiant, mais vous êtes aussi étudiant africain. Je m'interroge sur votre rapport à l'Afrique, c'est-à-dire que les développeurs africains sont en ce moment très cotés, on en parle énormément sur de la qualité de leur travail, et je m'interrogeais sur votre rapport, vous, à ces jeunes développeurs-là. Est-ce que vous voyez en Milamite une opportunité pour que ces jeunes développeurs-là puissent avoir une plateforme pour s'exprimer, pour aussi mettre leur créativité en avant?
Il faut dire que moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas tout de suite pensé à faire, puisque il faut quand même être honnête. Quand on est accueilli quelque part et que on a des opportunités et que cette terre d'accueil vous offre des opportunités, faut savoir la lui rendre pareil. Et donc, le but, l'intérêt, c'est de pouvoir, de contribuer également à la richesse de la terre qui m'a accueilli. Donc forcément, quand on crée une entreprise quelque part, il faut savoir faire travailler, créer de la richesse sur cette terre d'accueil. Donc tout de suite, je n'ai pas pensé aux développeurs africains, parce que pour moi, c'est que si j'obtenais des financements, le plus simple et le plus pragmatique en entrepreneuriat, c'est d'avoir les gens, de fonctionner là où je suis. Ça permet un suivi. Et ça permet également une interaction, beaucoup plus de facilité dans la collaboration. Mais le problème, c'est que j'étais confronté à des difficultés d'accès au financement. Et dans mon cas d'étudiant étranger, c'est assez compliqué. Soit je laissais tomber mon projet, et à un moment donné, j'ai pensé le laisser tomber. Mais chaque année, quand je rencontrais de nouveaux étudiants dans le cadre de mon poste d'assistant d'éducation au lycée Mandela, ou même la dernière fois, ce qui a fini par me convaincre, c'est que j'avais, dans le cadre de mes études doctorales, effectué un séjour à Montréal, à l'Université de Montréal, où j'avais participé avec le projet à un concours organisé par l'Université de Nantes, le Challenge étudiant, où j'ai présenté le concept et j'ai gagné le prix du public. Et donc, les étudiants ont facilement, massivement voté pour mon projet. Donc, de retour en France, j'ai dit, en 2018, j'ai dit, là, si je ne me lance pas, c'est que tout porte à croire que le public auquel je veux répondre les besoins a trouvé mon concept, l'utilité de mon concept. Donc, faudrait pas que je le lâche.
Et c'est là qu'ils interviennent, les développeurs africains.
Exactement. C'est là que j'ai dû faire appel à des jeunes développeurs africains. Qui, pour le coup, m'ont coûté moins cher et qui m'ont fait une plateforme avec des fonctionnalités qu'à la base, je n'imaginais même pas et qu'ici, pour rien, je ne pourrais même pas m'imaginer que je trouverais de quoi payer une agence ici pour me développer ces fonctionnalités, en fait.
Ce que vous dites me fait penser à une chanson intitulée « L'Afrique est riche ». Je vous propose d'écouter un morceau.
Avec plaisir.
L'Afrique est riche, nalo banini, boyokanga. Oh yeah yeah yeah.
L'Afrique est riche,
nalo banini, boyokanga. Là-bas il y a le fric, là-bas tout est chic. Personne n'est antipathique, tout le monde est sympathique. Mais les vagues de l'océan Atlantique sème la panique dans cette Afrique unique. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Vous écoutez Nantaises et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
C'était L'Afrique est riche de Shti Djembe Dimpika. Sabiku Moumouni, je vous propose de partager un petit peu votre plateforme aujourd'hui avec justement d'autres étudiants africains, mais pas que, qui rencontrent des étudiants étrangers en tout cas, qui rencontrent des difficultés pour renouveler leur titre de séjour. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais depuis le début du mois de décembre, il y a un cri d'alerte, vraiment, qui est mené, qui est fait par des étudiants étrangers, dont l'association des étudiants sénégalais de France. À Nantes, nous avons aussi l'association des étudiants ivoiriens de Nantes, qui attire notre attention sur le fait que beaucoup d'étudiants à Nantes se retrouvent en situation d'irrégularité de séjour à cause de la dématérialisation de la procédure de renouvellement qui est en place depuis quelques mois maintenant. Je vous propose d'écouter Jean-Michel Café, président de l'association des étudiants ivoiriens de Nantes, qui nous explique un peu la situation. Jean-Michel, pourriez-vous nous expliquer les situations que vous rencontrez à Nantes actuellement ?
Merci pour la question. En ce qui concerne les situations que nous rencontrons à Nantes, il faut dire que celles-ci ne se détachent pas des problématiques qu'on a pu recenser déjà sur l'ensemble du territoire. En effet, certains d'entre nous sont malheureusement confrontés à des délais de traitement très longs par rapport à leur demande de titre de séjour. Et le plus regrettable, c'est que certains d'entre eux n'ont même pas d'attestation de prolongement d'instruction. C'est-à-dire que ces personnes-là se retrouvent alors sans titre de séjour ni d'un document justifiant qu'elles sont en instance de renouvellement. Du coup, elles sont de facto dans une situation irrégulière. Après, on a le cas des personnes qui ont changé de ville et qui ne savent pas comment faire le relais entre les préfectures. Voilà, et il y a aussi au niveau des préfectures pas assez de lisibilité sur la procédure en elle-même pour effectuer ce rôle.
Et bénéficiez-vous d'un soutien ou d'un appui de la part de l'Université de Nantes dans votre discussion avec la préfecture ?
Si, faut dire qu'au niveau de l'université, les soutiens que nous avons pu avoir sont des soutiens qui tendent plutôt à faciliter le volet purement académique. Voilà, on a eu par exemple des étudiants qui ont pu bénéficier du pass numérique et ça c'est de façon générale, que ce soit des boursiers, non-boursiers, étrangers ou français. Donc c'est déjà un plus dans un tel contexte. Ensuite, on a eu beaucoup de, au niveau associatif, beaucoup d'organisations de remise de kits alimentaires et même le CROUS qui a procédé aussi à ces remises de kits alimentaires. Mais il faut dire que la situation particulier du problème administratif des étudiants étrangers, je pense que l'université a laissé la main à la préfecture pour pouvoir vraiment pouvoir gérer cette situation. Parce que il faut le dire quand même, certes il y a de nombreux cas qui sont pas en proportion marginale, mais je pense que on n'a pas encore atteint des proportions ingérables comme dans certaines localités.
Et si vous pouviez vous adresser directement aux autorités, quelles seraient vos demandes, vos attentes ?
À l'heure actuelle, nos principales attentes vis-à-vis des autorités, c'est qu'il y ait plus de lisibilité déjà au niveau de la procédure, mais surtout en urgence, c'est de pallier à la situation de sans-papiers de fait qui s'impose à certains de nos amis parce que justement ils n'ont ni attestation de prolongement d'instruction ni même un autre papier quelconque qui puisse justifier qu'ils sont en instance de renouvellement. Et du coup, c'est assez compliqué pour ces amis-là qui se voient vraiment bouleversés dans leur quotidien. Par ailleurs, nous souhaiterons aussi qu'il y ait plus de fluidité entre les différentes préfectures pour que le relais se fasse assez bien quand une personne change de ville et que celle-ci avait déjà entamé une procédure précédemment dans la ville d'où elle vient. Et c'est le minimum que nous demandons et nous espérons vraiment que ce soit pas un vœu pieux et que les autorités se penchent réellement sur le cas assez particulier de nos camarades qui se retrouvent dans des situations vraiment peu confortables.
En tout cas, nous espérons que la situation se réglera d'ici peu pour les étudiants. On vous souhaite du courage, Jean-Michel, et courage à tous les étudiants qui se retrouvent actuellement dans cette situation.
Chers auditeurs et auditrices, comme d'habitude, l'heure passe si vite en très bonne compagnie, puisque c'est déjà la fin. Comme toujours, c'était un réel plaisir de passer ce moment avec vous et avec Patrick. Nous espérons que vous avez aimé découvrir un Nantais de cœur de plus. Il me reste à remercier notre invité, Sabiku Moumouni, d'avoir accepté l'invitation des Nantaises et Nantais d'ailleurs, et de lui souhaiter bon courage pour la suite. Merci Sabiku.
Merci Lorraine, je suis un plaisir.
Pareillement. Je remercie mon fidèle binôme, Patrick, toujours à la technique, et merci à vous qui nous avez écoutés pendant cette heure. Rendez-vous le dimanche 10 janvier 2021 pour notre prochain numéro, de midi à 13h toujours, nouvelle année, mais mêmes horaires. Et en attendant, l'équipe des Nantaises et Nantais d'ailleurs vous souhaite de très belles fêtes. Mais n'oubliez pas, les papiers cadeaux, ça pollue. À la prochaine.
Petit, petit, je l'aime beaucoup.